Merci à Jean-Pierre de nous avoir conduits dans la louange ce matin. Bienvenue à chacun et à chacune. On va prier ensemble et puis on va entamer notre moment de réflexion. Nous te remercions, Éternel, notre Dieu, pour ta parole qui est comme un pain qui se partage. Rassasie-nous, Seigneur, par ta parole, que nous puissions grandir, progresser dans notre foi, dans notre relation avec toi, allant de progrès en progrès pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez bien, évidemment, ce qu'on appelle souvent le trio de Béthanie. Marthe, Marie, et puis leur frère Lazare, qui habitait dans une petite bourgade à 3 kilomètres de Jérusalem. Béthanie, précisément, qui signifie la maison de l'affligé. Alors, à travers ces trois personnages, se dégagent trois facettes de la vie chrétienne. La première, c'est l'écoute et l'adoration de la parole de Dieu, dont Marie est le type. La deuxième facette qui caractérise notre vie chrétienne, c'est le service, dont Marthe est le type. Et puis enfin, la troisième caractéristique, la troisième facette qui se dégage de la personne de Lazare, dont Lazare est le type, c'est notre vie en tant que ressuscité avec Christ. Notre marche en nouveauté de vie. Troisième caractéristique, troisième facette de notre vie chrétienne. On va lire deux textes, le premier dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, des versets 38 à 42. Évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, où nous lisons. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien, que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et le deuxième texte dans l'évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, juste après, au chapitre 12, les 11 premiers versets. Jean, chapitre 12, les 11 premiers versets. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, verset 6, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui. et croyaient en Jésus. Sur le haut du podium se trouve donc Marie. Marie qui est le type du chrétien qui écoute la parole de Dieu et qui adore. Le texte dit « Marie qui s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole ». Savoir écouter. On vit dans un siècle où notre capacité d'écoute est de plus en plus altérée, où on sait de moins en moins écouter l'autre. Ainsi, on peut rencontrer monsieur ou madame moulin à parole. On ne sait pas en placer une. Sa capacité d'écoute, la capacité d'écoute de cet interlocuteur est fortement réduite. Le débit est comme un débit d'un robinet ouvert à fond. Monsieur et madame moulin à parole. Et puis, on peut aussi rencontrer un autre interlocuteur, c'est monsieur ou madame dialogue de sourds. Ses expériences, son vécu, ce qu'il a à dire, sont toujours plus importantes de ce que les autres ont eux à dire ou à partager. Capacité d'écoute fortement réduite. Et puis, on peut aussi rencontrer monsieur ou madame du coq à l'âne. On s'approche d'un interlocuteur que l'on croit, que l'on pense être d'une capacité d'écoute importante. On veut peut-être lui partager un fardeau, une souffrance, un problème quelconque. Mais il a tout fait de passer à un autre sujet. C'est quelqu'un qui aime bien s'écouter. Il passe du coq à l'âne. Capacité d'écoute réduite, fortement réduite. Et puis il y a aussi d'autres interlocuteurs comme monsieur ou madame, j'interromps. On commence à partager quelque chose, à faire part d'un sujet peut-être préoccupant pour nous, mais notre interlocuteur a tout fait de nous interrompre pour partager autre chose, ce qu'il croit, ce qu'il pense être plus important que ce qu'on a apporté. Profil de personnes aux capacités d'écoute réduites. Ne nous arrive-t-il pas aussi, souvent peut-être, lorsque nous sommes face à un interlocuteur, de réfléchir à ce qu'on va lui répondre, à la répartie qu'on va lui apporter, plutôt que de l'écouter. Un travers qui fait preuve aussi, qui témoigne aussi parfois de notre manque de capacité d'écoute. Quelle est, frères et sœurs, précisément la qualité, notre qualité d'écoute envers les autres, et plus particulièrement, puisque le contexte nous parle ici, de notre capacité d'écoute envers Dieu. Quelle est notre capacité d'écoute envers Dieu, envers sa parole? Quand je lis la parole de Dieu, est-ce que je suis à l'écoute de la voix du Seigneur? Est-ce que je suis à l'écoute de ce que Dieu veut me transmettre, de ce que Dieu veut me dire, de ce que Dieu veut m'enseigner, de ce que Dieu veut me montrer, de ce que Dieu veut me révéler? Est-ce que je suis attentif à ce que Dieu a à me dire à travers sa parole? Combien de fois ne trouve-t-on pas dans l'Ancien Testament en particulier ces paroles « Écoute, ô Israël, écoute, Israël ». Quelle qualité d'écoute accordons-nous au Seigneur à travers sa parole? Lisons-nous la Bible? Est-ce qu'on écoute Dieu nous parler à travers la lecture de la Bible? Marie se trouve presque toujours assise aux pieds du Seigneur dans le Nouveau Testament parce qu'elle se plaisait à écouter le Maître. Marie, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marie a bien compris cette autre parole de Jésus qui est relatée dans les évangiles. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Sommes-nous des bienheureux? Écoutons-nous la parole de Dieu? Écoutons-nous la voix de l'Esprit Saint à travers les Écritures? Si quelqu'un a des oreilles, rappelle Jean dans l'Apocalypse au chapitre 13, verset 9, qu'il entende. ce que l'Esprit a à dire. Et l'Esprit parle, bien évidemment, à travers la parole de Dieu. Sommes-nous à l'écoute de Dieu? Marie était à l'écoute de Dieu. Une autre attitude de Marie, outre sa qualité, la qualité de son écoute, c'est que elle est une adoratrice du Seigneur motivée par l'amour. Elle adore le Seigneur. Elle répand sur les pieds de Jésus un nard pur d'un grand prix, une huile odoriférante. Son onction, comme nous l'avons lu d'ailleurs dans le texte, est à la fois une démarche d'adoration, une initiative d'adoration, une forme d'adoration, mais elle est aussi à la fois un acte prophétique puisqu'elle annonce l'ensevelissement du Seigneur qui aura lieu 7 jours plus tard. Marie, donc, de par l'onction qu'elle verse sur les pieds de Jésus, démontre son adoration, mais manifeste aussi un acte prophétique qui va se produire 7 jours plus tard lorsque Jésus sera enseveli. Et dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, doxologie, gloire rendue à Jésus, le parfum, on voit que le parfum symbolise la prière d'adoration des saints. Alors Marie, à travers cet acte de dévotion qu'elle rend au Seigneur, en lui versant l'huile, le nectar pur sur ses pieds, contribue d'une certaine manière à l'adoration qu'elle rend au Seigneur. Ça sent bon dans toute la demeure, ça sent bon dans toute la pièce. Donc Marie, par son acte, annonce d'une part, comme je le disais il y a un instant, l'ensevelissement prochain de Jésus, et d'autre part, elle adore, elle vénère le Seigneur, le Christ, et elle part du principe que rien n'est trop beau, rien n'est trop précieux pour offrir au Seigneur. Il est digne de recevoir tout ce que nous sommes et aussi tout ce que nous possédons. Marie, dit le texte, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'onction de Marie, une manière à elle d'adorer son Seigneur, d'adorer son Maître, de lui montrer ô combien il a du prix à ses yeux. Alors on va passer au deuxième personnage, après Marie. C'est Marthe, sa sœur, que l'on peut placer sur la deuxième marche du podium. Marthe, que l'on trouve souvent dans les évangiles en train de servir, de s'activer au service. Seigneur, lui dit Marthe en visant Marie, dis-lui de m'aider, elle ne fait rien. Et Jésus de répondre avec tendresse, comme nous l'avons lu, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors évidemment, il ne faut pas conclure que tout est à blâmer dans le service, dans l'attitude de Marthe. Il suffit de voir, de considérer la foi et la confiance dont elle fait preuve aux portes de Béthanie quand elle va à la rencontre de Jésus pour lui annoncer que son frère est mort. Et elle lui dit, Seigneur, Lazare est mort, mais quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe, une femme de foi, sur qui repose la responsabilité du service, et son empressement à bien le recevoir, à bien recevoir Jésus, démontre de son amour aussi pour le Maître, démontre de son amour pour Jésus. Cependant, Marthe oublie ce qui précède le service. Marthe oublie qu'il faut être à l'écoute de Dieu avant d'appliquer le service qu'on a à lui rendre. Marthe oublie qu'il nous faut être, qu'il lui faut être à l'écoute et qu'il nous faut aussi être à l'écoute de Dieu pour pouvoir connaître sa volonté, afin de pouvoir connaître sa direction, pour pouvoir être sanctifié, vivifié, fortifié et boosté en quelque sorte dans notre foi afin d'exercer un service efficace pour le Maître. Marthe l'oublie, ce que Marie n'a pas oublié. Et c'est la raison pour laquelle le service se place sur la deuxième marche du podium. Et Marie, on va le voir un peu plus tard, elle le comprendra en Jean 12, verset 2, puisque là, il n'y a plus de traces d'agitation ni d'inquiétude dans son service. Elle a compris. Elle a compris, effectivement, que l'écoute précède le service. Frères et sœurs, si un ministère ou un service, quel qu'il soit, s'il n'est pas précédé d'une écoute attentive de Dieu à travers sa parole, risque d'être stérile, risque d'être inefficace. Ainsi, on peut se lancer dans toute une série d'activités pour Dieu que l'on croit être des ministères ou que l'on pense être des services qui lui sont rendus, mais qui en réalité ne sont qu'une forme d'activisme stérile, vain, inefficace. Pourquoi ? Parce que vide de la puissance de l'Esprit de Dieu. Un activisme qui finalement vise en priorité à autosatisfaire l'homme et à le glorifier lui, plutôt que de glorifier et de satisfaire la personne divine de Jésus-Christ. Mais si notre vie est comme elle devrait l'être, placée à l'écoute de la parole de Dieu à travers sa parole, alors notre service, alors notre ministère sera puissant, sera efficace, sera opérant. Soyez fervent d'esprit, et cette ferveur d'esprit s'obtient par l'écoute de la parole de Dieu, servez le Seigneur. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Quelle est la nature de ce service pour Dieu ? 1 Pierre chapitre 4 verset 10 nous l'a défini comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Servir Jésus-Christ, en définitive, équivaut à servir le corps de Christ, équivaut à servir l'Église, équivaut à servir ses frères et ses sœurs. Souvenons-nous de ces paroles de Jésus. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les faites. Ou c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu chapitre 25, verset 40. Servir Dieu, c'est se mettre au service des autres. Remplir un ministère pour Dieu, c'est remplir un ministère en faveur des autres. Servir l'autre revient à servir Christ. Alors sommes-nous au service des uns des autres ? Mettons-nous nos dons au service de nos frères et sœurs ? Dons d'encouragement, dons d'avertissement, dans l'amour, d'enseignement, de présidence, de libéralité, d'hospitalité, de conseiller, de guérison, de prophétie, etc. Il suffit de relire les listes de Romains 12, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 qui ne sont pas exhaustives. Mettons-nous notre service au profit de nos frères et sœurs. Jésus, lui, le Maître, le Seigneur, comme nous le savons, à travers l'épisode du lavement des pieds des disciples, est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est notre rôle aussi. Nous sommes là pour être les serviteurs les uns des autres. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper et Marthe servait. Marthe servait. Le service, l'écoute, l'adoration, première marche du podium, le service, deuxième marche du podium. Et puis maintenant, nous en arrivons à la troisième marche, qui finalement se trouve sur un même piédestal que la deuxième, c'est le témoignage, notre marche en tant que ressuscité avec Christ, dont Lazare est le type dans le texte que nous avons, dans les textes que nous avons lus. Il était mort, mais il est revenu à la vie par la puissance souveraine de Dieu. Jean 12, verset 9 dit ceci, « Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent, non pas seulement à cause de lui, donc à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. » Lazare était donc un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Mais c'est ce que veulent voir aussi nos concitoyens à travers nos vies. Nos concitoyens veulent voir aussi le témoignage qui transparaît à travers nos vies en tant que ressuscité avec Christ. Et l'apôtre Paul, c'est un verset merveilleux, Galates chapitre 2, verset 20, que l'on connaît, hein, qui dit, c'est un verset qu'on devrait connaître par cœur, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi ou qui vit en moi. » Crucifié avec Christ, c'est Christ désormais qui vit en moi. Voilà le condensé de toute la marche en nouveauté de vie de laquelle est censé se dégager notre témoignage chrétien. Paul, toujours lui, en Romains 6, un passage que les candidats au baptême ont déjà appris. L'apôtre Paul met en évidence, à travers ce chapitre 6 du livre de l'Épître aux Romains, notre identification à la mort de Christ. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été noyé, mon vieil homme a été noyé en quelque sorte avec Christ. Ma chair a été noyée, crucifiée et morte avec le Christ. Mon vieux moi, mes penchants naturels, mon être animal a été crucifié avec Christ et désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je suis ressuscité avec le Christ en nouveauté de vie. Voilà le témoignage, la marche en nouveauté de vie. En effet, dit Paul dans ce chapitre, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mort avec Christ, vivant pour Christ. Cette réalité spirituelle, donc, est un petit peu plus loin, il précise, ainsi vous-même, considérez-vous comme étant mort au péché et vivant pour Christ et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est une réalité spirituelle dont nous devrions nous souvenir régulièrement. Peut-on imaginer que ma main, en tant que chrétien, personne née de nouveau, puisse aller dérober quoi que ce soit n'importe où, peut-être sur mon lieu de travail. Est-ce que je peux imaginer ça? Mais non, puisque ma main est morte. C'est comme si lorsque je me rends au funérarium, n'est-ce pas, pour rendre un dernier hommage aux défunts et puis encadrer la famille, je me recueille devant le cercueil du défunt qui est là, et puis il commence à avoir sa main qui va fouiller dans ma poche pour aller chercher quelque chose. C'est inconcevable, c'est une ineptie, il a dit, ben, on comprend bien. Ou bien c'est comme si je me trouvais dans le funérarium devant un mort et qui commence à articuler les lèvres et à m'injurier, m'invectiver. Un mort ne peut pas faire ça. Ou bien à critiquer quelqu'un de façon négative, le mépriser, médire de lui ou calomnier. Et tu sais, celle-là qui est juste dans l'autre salle, là. Ben, mais c'est inimaginable. Un mort ne médit pas. Un mort ne vole pas. Un mort, imaginons que le mort qui est devant vous ouvre ses yeux et commence à convoiter certaines choses. C'est inconcevable. Un mort ne peut pas convoiter. Et voilà ma position. En Christ, je suis mort au péché. Mort avec Christ, ressuscité avec lui à une vie nouvelle. Inconcevable. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. de marcher en nouveauté de vie, de vivre avec le Christ ressuscité. Il y a un combat. Parce que on est toujours partagé entre le désir de satisfaire nos pulsions charnelles, nos désirs charnels, notre vieil homme, et le désir, d'autre part, de plaire à Dieu. On est toujours partagé. Il y a un combat spirituel qui se joue là. C'est plus facile d'apprendre des versets bibliques par cœur, ou bien d'apprendre des doctrines bibliques, c'est important, je ne dis pas le contraire, que de vivre en tant que ressuscité avec Christ, que de vivre en nouveauté de vie avec le Christ ressuscité. On a besoin d'une discipline, on a besoin de faire preuve de volonté pour pouvoir nous identifier au Christ ressuscité, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin aussi d'une puissance extérieure, d'une dynamique extérieure, d'un souffle extérieur, le souffle de l'Esprit, que l'on reçoit à travers la communion, que l'on reçoit, et on y revient, à travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers l'écoute de Dieu, à travers sa parole, comme Marie. C'est le point de départ. C'est le point de départ en vue d'un service quelconque pour Dieu, pour mes frères et sœurs, mais aussi en vue du témoignage que nous avons à rendre autour de nous. Si on détourne notre oreille de la parole de Dieu, on devient faible et vulnérable. Et heureusement qu'il y a la grâce de Dieu qui est là, toujours pour nous pardonner, pour nous relever, pour nous restaurer et pour nous permettre de poursuivre notre marche en tant que ressuscité avec Christ, notre marche en nouveauté de vie. Frères et sœurs, si on n'établit pas de démarcation, de différence morale avec le monde, qu'est-ce qu'on va apporter comme témoignage à ceux qui nous entourent? Quelle va être notre vie de témoin? Qu'avons-nous à apporter? En quoi notre vie de ressuscité avec le Christ est-elle un témoignage qui suscite l'étonnement, l'admiration, peut-être l'émerveillement de ceux qui nous entourent? Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts, Luc 12, verset 9. Nos concitoyens, nos contemporains, ceux qui nous voient vivre ont besoin de voir le Christ transparaître à travers nos vies, notre témoignage, notre vie nouvelle, notre marche en nouveauté de vie. Et on en arrive à la conclusion. Rappelons que Marie est le type du chrétien qui écoute la parole de Dieu et qui adore. Rappelons aussi que Marthe est le type du chrétien qui sert, qui exerce un ministère, un service. Rappelons aussi, enfin, que Lazare est le type du chrétien mort et ressuscité, apportant au monde un témoignage vivant. Alors, frères et sœurs, les grâces spirituelles accordées à ce trio de Béthanie se complètent. Ce qui les caractérise devrait aussi se fondre dans chacune de nos vies. Est-ce que c'est le cas ?